Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver sur Bible Espoir et j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur tout simplement les origines, le vide des origines. Nous pouvons l'intituler ainsi, eh bien, cette lecture. Alors, sans tarder, nous allons lire un passage qui nourrit notre pensée. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous voyons dans le chapitre 17 et le verset 23, tout simplement, eh bien, ce qui nous est rappelé. Je prends le verset 22 pour commencer. Paul l'apôtre, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu, à un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Alors nous avons en effet, eh bien, à travers cette parole de l'apôtre Paul qui s'adresse à cette population ô combien cultivée d'un monde de philosophes, un monde intellectuel, eh bien, qui n'était même pas en capacité, malgré leur haute pensée, de savoir, de connaître, de découvrir, d'avoir l'envie de découvrir, eh bien, ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Le programme du plan de Dieu est un programme qui touche le salut de l'homme, de l'humanité. Et nous avons, à travers ces quelques lignes lues dans notre livre des Actes, dans la Bible, un schéma général et une organisation. Comment, en effet, eh bien, les choses s'articulent. Le thème du message de Paul, c'est la foi et la grâce. Ça, c'est le message que Jésus est venu nous apporter, hein, il y a 2000 ans. Et la foi et la grâce, ou la foi dans la grâce. Et puis, une chose qu'il faut aussi préciser, que dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, l'Ancien Testament est édicté la loi élémentaire que Dieu a donnée à travers des hommes comme Moïse, comme Abraham et bien d'autres prophètes de ces temps-là. Alors il y a une analyse à faire et nous pouvons poser un diagnostic. Le verdict de cette situation de perdition de l'humanité, eh bien, se résume tout simplement dans le remède. Voilà l'état naturellement perdu. Et nous savons que Dieu est venu apporter un remède à travers, eh bien, la venue de Jésus sur cette terre. Et c'est un constat. L'homme et sa confiance en lui-même fait de lui, en quelque sorte, un électron libre. Il a perdu, finalement, lorsqu'il lève les yeux au ciel, la réalité invisible d'un Dieu qui l'a créé. Un Dieu qui est venu sur la terre pour le sauver, à travers une personne, à travers un être vivant qui est le Verbe incarné, qui est Jésus-Christ. Et nous savons que tout ça, parce que l'homme a été véritablement, eh bien là, détaché, nous pourrions dire, il s'est détaché, sous couvert d'être indépendant de ce Créateur qui l'avait prévenu qu'il y avait un danger de mort, de séparation. Et nous voyons qu'il est devenu, je l'ai dit il y a un instant, un électron libre qui se tourne tantôt à droite, tantôt à gauche, cherchant à être rassuré, cherchant à être tranquillisé, cherchant à éviter, eh bien là, tout ce que l'on peut appeler aujourd'hui la malédiction et le rejet. Électron libre. Et qui, véritablement, est le pathétique ou la pathétique recherche et de l'illusion d'un paradis perdu et où le bonheur a disparu sur cette terre. L'homme a cela à l'intérieur de lui-même, c'est inconscient, c'est quelque chose de très vague, mais il voudrait retrouver ce paradis, donc l'Éden, hein, qu'il a perdu en désobéissant à Dieu. Alors il est devenu esclave, il est tombé dans l'esclavage, et ça c'est son désir d'indépendance, ni Dieu, ni rien d'autre, donc la dépendance en raison de ce désir d'indépendance. Et c'est une liberté qui a été cher payée, parce qu'à partir de ce faux pas, à partir de ce que l'on appelle la chute, oui, eh bien la mort est survenue sur la terre, une mort physique, une mort spirituelle. Alors maintenant, il faut rattraper naturellement eh bien, tout ce gâchis, mais Dieu a donné une parole qui véritablement, eh bien, est la parole qui guérit l'homme, qui transforme l'homme, qui pardonne à l'homme. Donc, liberté que l'homme a payée chèrement, et dont nous avons encore naturellement, eh bien, des milliers d'années après, les conséquences que nous pouvons juger. Il y a trois conditions, trois catégories de la condition humaine et les divers ismes de l'humanité perdue dans ces religions. Hein, voilà. Donc là, l'isthme, comme on l'appelle, hein, comme on peut le nommer, c'est tout simplement une langue de terre qui va se perdre dans l'océan. Et lorsque le point de départ, là, sur la terre, on fait le tour de cet isthme, eh bien, on revient au point de départ, tout simplement, mais sans solution, parce qu'on ne peut pas aller plus loin, tout simplement. Et voilà l'homme dans son état. La composition du monde vue par Dieu. Alors je vais donner quelques éléments, ils sont peut-être un petit peu ardus à comprendre, mais je vais tâcher de vous expliquer. Il y a d'abord le monde païen, c'est le monde des origines, le monde de l'après-création qui a fait de l'homme, qui l'a rapproché de l'animalité, qui l'a rapproché, eh bien là, de ce que Dieu voulait en faire un être supérieur, mais c'est le monde païen. Avec, se caractérisant par des mœurs, toutes sortes de choses, de croyances primaires. Alors, je vais le dire, à travers cette ignorance, et nous l'avons dit, c'est-à-dire le vide des origines, l'homme est livré à lui-même. L'ignorance ou le pressentiment de la divinité, il sent bien qu'il y a quelque chose, qu'on n'est pas sorti de la poussière seulement. On n'est pas finalement eh bien là venu là tout simplement à travers une création ex nihilo, c'est-à-dire de rien du tout. Non, on est sorti des mains de Dieu, de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu. Alors, c'est ce qu'on appelle le pressentiment de la divinité. Alors, on la trouve dans la nature, parce que Dieu a marqué son empreinte. On le trouve dans l'adoration pour ce monde païen, eh bien dans les astres, dans les animaux, dans tous les éléments géographiques, le ciel, la terre. Et aujourd'hui, nous avons des sociétés, des civilisations primitives, des gens qui, quelque part, n'ont jamais eu la connaissance de ce que nous dit la Bible sur la révélation. Donc, des gens qui adorent le ciel, qui adorent la terre. On pourrait citer peut-être quelques exemples. Moi, je pense à l'animisme, qui est la religion la plus répandue, par exemple, en Afrique et dans d'autres pays, où l'homme eh bien, va adorer là, certains animaux, en faire des dieux et toutes sortes de choses. Le feu, par exemple. Le panthéisme, c'est l'adoration de toute la création de Dieu, où l'homme païen ne voit pas que derrière il y a un créateur et qui a fait les choses, où il est dit que Dieu vit ce qu'il avait créé et il vit que tout cela était très bon. Mais l'homme ne le voit pas qu'il y a quelque chose. C'est tout simplement pour lui le fait du hasard, c'est comme ça et c'est tout. Hein. Et puis il y a toutes les morales, je le dis au pluriel, les morales tribales et relatives, et qui n'ont rien à voir avec le message de l'évangile. Ensuite, il y a une autre étape qui s'est déroulée dans les siècles, c'est l'homme évolué. L'homme évolué, c'est celui que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'homme de notre temps, de notre siècle, à travers eh bien là, l'évolution. Et nous voyons qu'il a appris à se civiliser. C'est pas pour ça que sa civilisation a véritablement banni les meurtres, les crimes, le mensonge, l'hypocrisie et toutes ces choses, toutes ces méchancetés. Parce que finalement, dans cet homme civilisé, c'est comme dans le monde païen. Il y a encore des relents, il y a encore même un accroissement de la méchanceté du cœur de l'homme, de la jalousie, de la haine. Donc l'homme évolué reste encore primitif. Il reste encore avec des réactions animales. Et il a tâché de socialiser les mœurs en donnant des lois que nous avons, auxquels nous sommes tenus de respecter, et à travers des croyances, croyances s'inspirant du syncrétisme, mélanger les religions, hein, un peu d'islam, un peu de christianisme, un peu de bouddhisme, etc. etc. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme religieux, des religions élaborées et qui amènent dans toutes sortes de choses, où là, l'homme d'aujourd'hui religieux, même religieux chrétien, eh bien, retourne à la loi de l'Ancien Testament, c'est-à-dire ce qu'on appelle le légalisme, le formalisme. Et nous voyons que tout cela, eh bien, c'est quelque chose qui enferme l'homme dans des lois, dans des choses très sévères, rigides, avec la culpabilité de les enfreindre et avec la peur de la condamnation. Donc, là, nous avons des techniques scientifiques, culturelles, on pourrait dire cultuelles, sociales et politiques, parce que le monde fonctionne quand même, mais il fonctionne avec la réalité du mal, avec la réalité du péché, avec la réalité de la chute. Alors, il y a là naturellement une démarche de l'homme civilisé, avec cette perfection, avec cette tendance de perfectionnisme, d'idéalisme, qui n'est qu'une utopie d'un monde qui n'est pas débarrassé du mal et de la mort. Il a fallu naturellement la venue de Jésus pour mourir à la croix, et c'est ce qu'il a fait. Il est mort, non pas pour lui, mais il est mort pour tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur croyance, leur religion, leur couleur de peau, leur langue. Mais une chose qui est certaine, c'est que le mal reste encore, et quelle chose nous pouvons dire, c'est que Jésus nous a donné le dernier mot, le mot final de tout cela, qu'il était venu sauver l'humanité, et que dans cette humanité, il dira, lorsque il va rendre l'esprit, je ne dis pas l'âme, mais rendre l'esprit à la croix du calvaire, il dira, mais tout est accompli. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rien, puisque de toute façon, les choses sont faites. Et elles sont faites depuis 2000 ans. La seule chose, et nous allons le voir, c'est la dimension de la foi. Je ne dis pas la croyance, mais je dis la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Évangile. Alors, va arriver une troisième dimension de l'humanité, c'est ce qu'on appelle les Juifs, qui ont reçu depuis si longtemps, l'Ancien Testament, la révélation de la lumière. Et nous voyons qu'Israël, par rapport à toutes les nations qui ont existé, qui existent encore aujourd'hui, est un peuple prototype en quelque sorte. Le peuple juif nous a légué l'Ancien Testament, il nous a laissé les commandements, il nous a laissé tout ce que les uns et les autres, les grands et les petits, pouvaient finalement montrer l'exemple. Et ça n'a pas toujours été l'exemple, hein, naturellement. Le témoignage, la révélation pour les Juifs a été quelque chose de formidable, parce qu'il y a d'abord une réaction, un témoignage verbal et écrit. Témoignage verbal, c'est ce message de la grâce de Dieu qui a été transmis dans le livre, dans le Pentateuque et particulièrement dans le livre de la Genèse, un témoignage de la parole qui a été dite, s'est répandue. Et puis, un témoignage écrit, c'est-à-dire c'est tout ce que nous... tout ce que comporte l'Ancien Testament dans les livres prophétiques, dans les livres poétiques, dans les livres historiques, tout cela, c'est la grande partie de l'Ancien Testament, donc témoignage verbal et écrit qui nous a été légué en héritage par les Juifs. Alors, les Juifs étaient les premiers à avoir une saine connaissance, l'expression de la volonté de Dieu et ses exigences, et ils s'en prévalaient jusqu'à l'extrême en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle le fondamentalisme, et jusqu'à l'extrême, se prévalant de ces paroles qu'ils avaient reçues, de cette connaissance, tout en transgressant, cette parole qu'ils avaient reçue. Et Jésus leur dira à un moment donné, il leur dira, vous êtes des hypocrites, tout simplement parce que vous savez les choses et vous faites exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. C'est ce qu'on appelle l'exact savoir dont les Juifs étaient le détenteur, mais qu'ils véritablement enfreignaient continuellement. Le Dieu créateur, sa parole enseignée, la conscience éclairée peut se résumer par un état chez les païens qui est un état primitif, puis chez l'homme évolué dans le monde moderne, afin chez le juif et sa loi d'obéissance par le mérite. Voilà, c'est pas par la foi là, Mais tout l'Ancien Testament, c'est de vouloir gagner son ciel, de vouloir mériter Dieu, de vouloir plaire à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement faux. Et c'est là où les Juifs se sont trompés. Parce que Jésus est venu apporter la foi et la vérité, alors que les Juifs sont venus apporter tout simplement une obéissance servile, même craintive, craignant finalement eh bien, le jugement de Dieu, alors qu'ils étaient sauvés d'une autre manière. Tous pécheurs, à cause de l'immoralité, à cause de la violence, la corruption du mal qui est généralisée et à cause du détournement eh bien, de la pensée de Dieu. Le bilan de l'état de l'humanité perdue eh bien, a mérité ou a ouvert la voie à un médecin divin. C'est la vérité sur l'état du malade moribond qui a fait l'objet du plan de salut de Dieu pour sauver tous les hommes, qui est résumé par cette belle parole que nous trouvons tout simplement dans Jean chapitre 3 et verset 16. C'est le point central de toute la Bible, en quelque sorte, hein, où il est dit ceci, que Dieu a tant aimé. Il a tant aimé l'homme, et il a aimé l'homme parce qu'il est pécheur, parce qu'il a besoin d'un secours, parce qu'il a besoin d'être sauvé. Alors il a tant aimé l'humanité, sans faire de distinction, en donnant son Fils, en donnant Jésus-Christ, qui est mort pour tous, qui a été le substitut de chacun et de chacune, il a donné son Fils unique afin que quiconque, le quiconque, ça embrase tout simplement eh bien là, l'humanité entière, les hommes quels qu'ils soient. Et puis, nous voulons tout simplement terminer cette petite réflexion. C'est ce que Dieu a fait. Oui, on l'a dit, ce qu'il avait mis en place, le plan de salut. Alors, ce que Dieu a fait pour nous, il a fait la rédemption. Il a fait tout simplement, eh bien là, il nous a donné le pardon de nos péchés. Il nous a donné, eh bien, tout ce qui peut être un moyen de croire rédemption en nous, ce qu'il a fait en nous, c'est-à-dire une transformation. À partir du moment où l'homme commence à croire, il accepte Jésus, eh bien, il commence cette régénération, transformation de nous, en nous, de nous. Une nouvelle création. Il a fait de nous une nouvelle création. Et il a fait pour Israël l'accomplissement de l'élection, parce que Israël, depuis la chute en Éden, depuis l'Ancien Testament, si ancien, on peut dire, eh bien, a permis à Israël d'être confirmé dans cette position de fils de Dieu. Comme nous aussi, maintenant, en tant que chrétiens, nous sommes des fils de Dieu, des enfants de Dieu, donc c'est l'élection. Pour les nations ignorantes, c'est tout ce que nous avons dit précédemment, eh bien, il leur a donné la vérité évangélique à travers celui qui a payé de sa vie, qui a payé par son sacrifice, qui est mort sur une croix. Eh bien, c'est cette vérité dans la personne de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait encore en finale pour nous? C'est que nous soyons à son service, que nous disions, que nous proclamions, que nous acclamions finalement cette nouvelle pour que les gens qui entendent eh bien, puissent avoir la foi suffisante, puisque nous savons que dans Romains, l'apôtre Paul dira que ce que nous recevons, ce qui donne la foi, ce qui fait naître la foi, nous le disons sous différentes formes, mais ce qui fait naître la foi, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Alors, en écoutant, en entendant la parole, en recevant le message évangélique, alors à ce moment-là, la foi va naître dans notre cœur, et c'est par la foi que Dieu va nous recevoir. Alors, un Dieu inconnu. Le vil des origines, avons-nous dit tout à l'heure, c'est toutes ces inventions au niveau du monde, des hommes, qu'ils soient païens, qu'ils soient évolués comme aujourd'hui, ou d'une manière ou d'une autre, hein. Ces inventions faites par le monde où Dieu est inconnaissable. On ne connaît pas Dieu. Le cherche-t-on d'abord? Mais il est inconnaissable, il est invisible, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qui, quelque part, eh bien, existe autour de nous parce que nous avons des yeux pour appréhender la nature, pour appréhender le visible, le physique, le matériel. Mais il y a une chose aussi, parce que ça, c'est le témoignage de la foi. Ce qui est le plus important dans tout cela, c'est de voir dans l'invisible. Et l'invisible nous révèle tout simplement que Dieu existe, que Jésus-Christ existe. Alors il y a différentes déclinaisons de tout cela à travers ses religions et ses croyances. C'est ce qu'on appelle l'agnosticisme. Ensuite, il y a l'athéisme, qui est la négation absolue de l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas. Voilà, nous sommes là, dans un univers, de hasard, de toutes sortes de supputations de ce que ça peut être, mais il n'y a pas de connaissance, naturellement. Donc, l'athéisme, il y a le panthéisme, l'adoration d'un dieu qui est une force impersonnelle. Mais je voudrais dire que Dieu est une personne. Jésus-Christ est une personne. Le Saint-Esprit est une personne qui nous rend témoignage à notre conscience, à notre esprit, pour que nous puissions nous approcher de lui. Il y a ce qu'on appelle aussi le déisme, qui est une doctrine qui rejette la révélation au profit d'une religion naturelle inconnue. Voilà, le déisme, où là, c'est une religion naturelle, comme on le trouve peut-être dans une certaine forme, touchant ce qu'on a appelé les caractéristiques de l'animisme. Et puis, il y a également une religion qui est la révélation en toute vérité. C'est ce qu'on appelle le christianisme, avec toutes ses déclinaisons. Catholicisme, protestantisme, mais on n'est pas sauvé par une religion, on est sauvé par un homme. Une religion, c'est une philosophie, on peut dire. C'est un concept, mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu en personne est venu, à travers la personne de son Fils. Il est appelé le Fils de Dieu, il est appelé le Verbe vivant, il est appelé celui qui est là au milieu de nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors le christianisme, et en retour j'aimerais que nous revenions sur notre texte, et je voudrais le lire en finale parce que tout ce que nous avons mis devant vous, vous pouvez le retrouver à travers ces lignes que nous avons, que nous laisse l'apôtre Paul. Alors donc, verset 23, je le reprends. Et Paul dira à ses contemporains à Athènes, il dira « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » C'est ce que nous avons partagé ce matin. Et il explique « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, donc Créateur, étant le Seigneur du ciel et de la terre, de l'immensité, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. » Or, nous voyons que toutes les civilisations, tous les empires, tous les royaumes, et jusque dans sa petite dimension, domestique, même dans les maisons, les pénates et tout ce que l'on veut, alors nous voyons qu'ils n'habitent point dans des temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines, comme on le prétend des religions qui sont là au service de Dieu, etc., comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Dieu se suffit à lui-même. Lui qui donne à tous la vie, c'est le principe, la respiration et toute chose. Il a fait de tous les hommes sortis d'un seul sang, ce qui bannit finalement le racisme et tout ce que l'on voit de profondément méchant et mauvais entre les hommes. Il a fait de nous des hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, cherchent Dieu, et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Voilà, c'est pour ça que ce chemin qui nous mène à Dieu, qui nous mène au salut, qui nous mène à Jésus-Christ, qui nous mène à la foi dans la grâce, c'est quelque chose, ça peut être une révélation immédiate, mais c'est aussi à travers tout un cheminement où nous cheminons avec notre conscience et qu'à un moment donné, nous mettons peut-être pour la première fois à prier et à demander à Dieu qu'il se révèle à nous. Bien que ce soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce que l'on dit, ce qui ont dit, quelques poètes que vous connaissez, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité. C'est un des textes les plus rares que nous avons dans la Bible. Nous ne devons pas croire, alors que tout le message de l'Évangile nous dit « Vous devez croire !» Et là, c'est du négatif. Vous ne devez pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Ce que les hommes ont été capables de faire à travers les belles cathédrales, à travers les vitraux, à travers cette richesse déployée à travers des siècles. C'est ce qu'il nous est rappelé. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ça c'est le monde païen, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. C'est ça la bascule, c'est ça l'élément essentiel pour connaître Dieu et sortir finalement de l'ignorance, du vide des origines. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné et dont il a donné tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ça, c'est la chose, eh bien, qui est la manifestation de la, du surnaturel de Dieu, de la puissance extraordinaire de Dieu, celui qui fait des miracles. Et le grand miracle qu'il fait, c'est pas tous les miracles qu'il fait sur la terre pour les hommes vivants sur la terre, mais c'est véritablement de changer leur cœur, de toucher leur conscience et d'en faire, après avoir été des pécheurs, en faire des saints, tout simplement. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et vous pouvez en tous les cas eh bien, méditer cette parole, parce qu'elle nous parle, elle nous dit ce que nous sommes et ce dont Dieu a préparé. Oui, nous avons besoin de connaître d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Que le Seigneur vous bénisse les uns et les autres. Merci à tous.